1 roi 11. Le roi Salomon, le fils de David, du roi David, vous vous en souvenez, avait accédé au trône de son père comme son père le désirait, comme Dieu l'avait prédit, prophétisé, non pas sans quelques problèmes. On voit de nos jours encore, rien n'a changé. Si vous regardez bien la Bible, comment le cœur des hommes n'a pas changé. On peut utiliser Facebook maintenant, Internet, les satellites, on peut utiliser les moyens modernes de technologie. Mais le cœur de l'homme, il n'a pas changé. Il suffit de voir la façon dont les hommes s'accrochent au pouvoir. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Tunisie, il y a toujours besoin de révolte, de mort, de sang versé. Et c'était pas mieux à l'époque du roi Salomon. Et tant que le cœur de l'homme n'est pas transformé par l'évangile, par le salut en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vient y faire sa demeure, les mêmes causes, les mêmes égoïsmes provoquent les mêmes effets, provoquent le péché, provoquent toujours la mort. Et donc ce roi Salomon, on a vu en étudiant le début du livre des rois, a eu un règne glorieux. On a vu qu'il a très bien commencé. Il s'est appliqué à construire le temple que son père voulait construire, mais que Dieu ne voulait pas qu'il construisît, parce qu'il était un homme de guerre et non un homme de paix. Salomon, Shalom, c'est la paix en hébreu. Et tout au long de son règne, Salomon a bénéficié d'une position de force qui assurait la paix autour d'Israël. Et ça lui a permis de se concentrer sur la construction du temple, sur la construction de son palais et sur une grande prospérité pour tout le royaume, à tel point que sa renommée s'était répandue dans le monde entier et que la reine de Saba, il y avait un vieux film avec Charleston, c'était la danse. La reine de Saba, ou Salomon et les mines de la reine de Saba. En fait, cette reine qui venait de ce qu'on pense être aujourd'hui le Yémen, était venue voir ce royaume dont elle avait entendu parler, de la sagesse de ce roi dont elle avait entendu parler aussi. Et elle disait qu'en fait, la moitié de ce qu'on lui avait dit, c'était deux fois mieux que ce qu'on lui avait dit. Elle était complètement époustouflée. Et c'est vrai que ce roi Salomon, il avait une grande sagesse. Vous vous souvenez comment Dieu lui était apparu et lui avait dit « Demande-moi ce que tu veux ». Et Salomon avait demandé la sagesse. Ça avait tellement plu à Dieu que Dieu lui avait dit « C'est une bonne chose que tu me demandes. Et comme tu ne m'as pas demandé non plus tout le reste, ben je vais te le donner aussi ». Tu vas être beau, tu vas être riche, tu vas être intelligent, tu vas être sage, tu vas être puissant, tu vas être respecté dans le monde. Toutes ces choses, je te les donne en plus. Mais on avait remarqué à l'époque, c'était une bonne réponse, puisque cette réponse, elle plaisait même à Dieu. Mais on s'était posé la question, et là je vous l'accorde, c'est pas nécessairement prouvé par le texte biblique, mais David aurait peut-être répondu différemment. David, il aurait répondu « Seigneur, je veux plus de toi. Je veux une plus grande intimité avec toi. Une seule chose, nous dit le psaume 22, je crois, je n'ai cherché qu'une seule chose, c'est être dans ton temple, admirer ta magnificence. » Cette présence. Et à l'époque, quand on avait commenté ce texte, on avait dit souvent, on a ce danger. Nous tous qui sommes chrétiens, qui pouvons avoir des responsabilités, des ministères, entre guillemets, souvent on pense plus à des choses qui vont nous aider pour le ministère. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Seigneur, donne-moi le don d'organisation. Seigneur, donne-moi le don de faire arriver les gens à l'heure. Seigneur, donne-moi des dons. Et ces dons, en fait, c'est des outils. Alors que Dieu est là qui nous dit, viens à moi, cherchez d'abord mon royaume. Cherchez-moi d'abord et tout le reste, je vous le donne en plus, pas de problème. Je sais ce dont vous avez besoin. Et on a remarqué, en lisant la vie, le début de la vie et les grandes entreprises de Salomon, qu'il y avait des petits signaux comme ça qui étaient... Il y avait un début formidable, mais il y avait des petites anicroches, des petits problèmes. On se disait, peut-être que c'est pas très bien ce qu'il fait là. On sait que, on va le voir, on va commencer à lire. On a parlé de sa richesse incroyable. On a parlé de sa cavalerie. On a parlé aussi du fait qu'il avait beaucoup de femmes. Mais on va lire ensemble à partir du verset 1, chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. » Elle détournerait certainement vos cœurs vers leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut, accroché les ceintures, 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel, comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, le mont des Oliviers, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, « Puisqu'il en est ainsi avec toi et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. » Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Vous savez que, avec sa grande sagesse reçue de Dieu, Salomon avait écrit beaucoup de proverbes. Il est dit qu'il en a écrit plus de 3000. Nous avons le bonheur, le privilège d'en avoir un grand nombre, un certain nombre, pas autant, mais un certain nombre dans ce qu'on appelle le recueil des proverbes. Et cet homme qui était l'homme le plus sage qui ait existé, c'est ce qui est dit dans 1 Roi 4, avec cette sagesse venue spécialement sur Dieu de la part de Dieu, il a écrit dans Proverbes 5, 18, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. » C'est beau, hein? Est-ce que vous parlez comme ça à vos épouses, messieurs qui êtes mariés? « Biche des amours, gazelle pleine de grâce. » soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ainsi, pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui aplanit toutes ses routes. Le méchant est pris dans ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Et là, essentiellement, il dit de rester fidèle à une femme telle que Dieu l'a voulu dès le commencement. Un homme quittera son père et sa mère pour épouser sa femme, pour épouser une femme, et ils deviendront une seule chair. Ça a toujours été l'idéal de Dieu. Même au temps des patriarches, on voit que on essaye d'excuser ça par le fait que c'était la coutume de l'époque d'avoir plusieurs femmes. La polygamie, ça n'a jamais apporté le bonheur. Il suffit de lire justement les histoires des patriarches. Et ce qui est surprenant, c'est on comprend mal. On dit comment est-ce que l'homme le plus sage, lui qui enseignait les autres, et ça me rappelle Jacques, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants parce que vous serez jugés avec d'autant plus de sévérité que vous faites le porte-parole de Dieu auprès des autres, veillez à ne pas tomber dans le péché. Là, Salomon qui conseille à tous les hommes, une seule femme, chérissez-la, n'allez pas vous disperser, pas d'adultère, pas d'autre, pas de polygamie, rien du tout. Et il se retrouve, l'homme le plus sage du monde, avec 1000 femmes. La différence entre les concubines et les femmes, là on voit que les femmes étaient appelées des princesses, c'était simplement une question d'héritage et de droit, mais c'était des femmes, c'était un harem de 1000 personnes. Je ne sais pas combien vous avez d'amis sur Facebook, mais avoir 100, 500, 1000, 2000, il y en a qui en ont encore plus. C'est pas facile de rien que de souhaiter les anniversaires. Mais là, c'est des femmes qui ont des besoins sexuels, qui ont des besoins de nourriture, qui ont des besoins de vêtements. Vous imaginez la carte de crédit de Salomon ? Et on se dit, comment est-ce que c'est possible ? Mais c'est souvent parce que on laisse les hormones, nos hormones, nous guider plus que notre cerveau. On réagit de façon impulsive par notre vieille nature, par notre chair. Notre chair, elle est pas très maligne, si vous avez remarqué. Et surtout pour nous les hommes, l'image d'une jolie femme nous fait réagir, plus ou moins, de façon plus ou moins importante, mais nous sommes contrôlés par nos hormones. Il y a un pasteur qui expliquait, c'est un peu comme si on va au restaurant. Je commande un tournedos Rossini. Avec des bonnes frites, et on m'amène le plat, et je commence déjà à saliver. C'est bon ça. Je peux pas attendre de commencer, j'attends que les autres soient servis. Puis, je vois que, à côté, ils reçoivent un couscous royal. Je commence à saliver aussi pour leur couscous. Et puis la troisième personne va prendre une soupe de lentilles avec un filet d'huile du Vieux-Nice. Ça aussi, ça. Combien il y en a qui ont déjà regretté leur choix ? Ah, si j'avais su, j'aurais pris autre chose. les restaurants chinois ou vietnamiens ont bien compris la chose, ils mettent des photos. Le seul problème, c'est que souvent ces photos sont vieilles et jaunies, elles donnent plus tellement envie de manger ces spécialités. Alors, avec des convives comme ça, des invités, des fois il est possible d'échanger. Ben, finalement, tu veux pas mon tourne-dos, je prendrai ton... Bon, allez, je veux bien. Les femmes font souvent ça avec leurs épouses, j'ai remarqué, pour l'avoir fait personnellement. Mais c'est toute proportion gardée, c'est la même chose au niveau de la sexualité. Mon corps, il voit quelque chose et il commence à avoir du désir. Ma vieille nature, elle ne sait pas ce que c'est que la fidélité. Ma vieille nature, elle ne sait pas ce que c'est que la moralité, ce que c'est que d'obéir à un proverbe pour notre bien ultime. Et cette attraction sexuelle, elle peut rendre le plus sage des hommes tel un imbécile. Et on voit comment des grands hommes, et même dans l'Église, des pasteurs, combien il y a de pasteurs qui tombent dans le péché sexuel pour un moment de plaisir passager. S'ils pouvaient revenir en arrière, je suis sûr que s'ils pouvaient revenir, faire retourner la vidéo, ils ne prendraient pas la même décision. Ils vont perdre leur ministère, leur famille, leurs enfants, le respect de leurs enfants. Tout ça parce qu'ils ont donné libre cours à leur vieille nature, à leur désir sexuel. Et Salomon, on va en voir d'autres explications, mais on ne prend pas 1000 femmes comme ça sans être intéressé par l'attrait sexuel. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on dit que c'était une façon d'abord de montrer qu'on était un grand roi, un grand homme. Ce que font certains de nos idoles aujourd'hui dans le domaine de la musique, du cinéma, de la politique, on critique la personne qui fait cela, mais on pardonne volontiers. On trouve que c'est une preuve de virilité, c'est une preuve d'énergie quand un homme se retrouve avec plusieurs femmes et plusieurs maîtresses. Mais c'est pas du tout le cas. Donc à l'époque, ça pouvait être une preuve qu'on était un grand potentat, un grand personnage, d'avoir beaucoup de femmes. On explique aussi que c'était une façon d'assurer la paix avec les territoires voisins. Pour faire la paix avec l'Italie, on allait voir la fille du roi d'Italie, on l'épousait, si on était le roi de France. Et comme ça, ça devenait la belle famille, on n'allait pas leur taper dessus. C'était pas très bien, on le faisait quand même, mais c'était une façon d'affermir le royaume, d'assurer la paix. Juste pour parler parce que nous avons beaucoup de jeunes parmi nous, j'aimerais qu'on regarde un peu ensemble 1 Corinthiens 7. C'est intéressant combien ce sujet de la sexualité revient dans la Bible. Et c'est une bonne chose parce que cette dimension de notre personnalité est une dimension que Dieu a fait très forte. Mais en même temps, il a prévu un cadre pour l'exercer, un cadre qui est absolument merveilleux et béni. Le cadre du mariage d'un homme et d'une femme devant Dieu et devant les hommes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des reportages à la télévision sur ces jeunes qui désirent rester sexuellement purs jusqu'au mariage, comme ces personnes étant des bizarreries. Un peu comme on irait voir des poissons qui auraient des ailes, très rares. On va voir qui sont ces bêtes curieuses qui n'ont pas de relation sexuelle en attendant le mariage. On dit même qu'aux États-Unis, il y a un mouvement bizarre où des jeunes comme ça prêtent serment, bien sûr sous la pression de leurs parents et de leurs pasteurs. Ils portent des bagues de pureté, une bague qui est un engagement qui leur rappelle qu'ils vont attendre le mariage. Mais l'enseignement de la Bible est très clair. La sexualité humaine, c'est une invention de Dieu. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. Mais Dieu lui a donné un cadre. Le feu, les allumettes, le charbon, ça peut être une chose très dangereuse lorsque ça ne se passe pas en dehors du lieu prévu pour ça. Si vous faites un feu au milieu de la moquette, c'est pas bon. Si vous le faites dans la cheminée, ça devient une chose belle, une chose chaleureuse, une chose qui apporte un plus et de bonnes choses. Et de même, la Bible est très claire, la sexualité dans le mariage, c'est une chose merveilleuse. Vous pouvez en parler aux gens qui sont mariés. Alors c'est vrai que trop souvent, les gens qui sont mariés, ils se plaignent de leur situation. Oh là là, elle est pénible, oh là là, elle fait ceci. Non, la réalité, c'est que si l'homme aime sa femme et que la femme respecte son mari, le mariage devient la plus belle des unions sur terre. Mais lisons que Paul, on pense qu'il avait été marié et qu'il était maintenant célibataire parce qu'il faisait partie du Sanhédrin, qui était un lieu qui était normalement réservé aux hommes mariés. On pense que peut-être il était devenu veuf. Mais il écrit aux Corinthiens. Corinthe, c'était pire que Nice. C'était pire que Paris ou New York ou Londres. Au niveau de l'immoralité, il y avait un verbe qui avait été inventé. On disait corinthianiser. Ça voulait dire faire les 400 coups, se livrer à la débauche sexuelle sous tous ses aspects. Paul leur écrit et il dit « Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. » Pas toucher de femme, ça veut dire rester célibataire si c'est possible, mais ça veut dire aussi ne pas toucher de femme. Vous les jeunes hommes, ne touchez pas aux jeunes femmes tant qu'elles ne sont pas vos épouses. Et il continue, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Un mari, une femme. Pas un mari et plusieurs femmes ou une femme et plusieurs maris. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même à la femme, à son mari. Et là, il explique que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, célibataires, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. La Bible dit, en dehors du mariage, pas de sexe. Dans le mariage, du sexe. Et ne vous privez pas l'un de l'autre. Le monde fait l'inverse. Satan veut qu'en dehors du mariage, il y ait plein de sexe et que dans le mariage, il n'y ait plus d'entente et qu'il n'y ait plus de sexe. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. La voilà la volonté de Dieu. Et donc, c'est un sujet très important. Il ajoute, s'ils manquent de continence, s'ils ne peuvent pas se retenir, si leur chair est trop forte, si leurs désirs sexuels sont très forts, qu'ils aient une petite amie ou deux sur le côté, mais rien de trop sérieux. Non, s'ils manquent de continence, ils ont du désir sexuel, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. Et peut-être, j'en suis sûr, parmi nous, il y en a qui ont hâte de trouver l'âme sœur. Des hommes qui prient pour une femme, des femmes qui prient pour un mari, n'arrêtez pas de prier. Mais ne faites que prier. N'allez pas toucher. Engagez de la prière. Servez le Seigneur d'abord. Cherchez son royaume. Il sait ce dont vous avez besoin, ce à quoi vous aspirez, ce à qui vous aspirez, à qui vous aspirez. Et en son temps, il va pourvoir d'une manière qui est mieux que ce que vous pouvez imaginer, penser ou demander. Mais cherchez d'abord, obéissez à sa volonté. Et ce qui peut être une source de joie, de fruits, d'enfants, de choses merveilleuses, lorsque c'est mal appliqué, c'est un instrument qui peut tout détruire, qui peut faire un mal fou. Comment résister à nos pulsions sexuelles? La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a qui sont contraires à ceux de la chair. Ainsi, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils peuvent pas. Il y a un combat. Et ce combat, c'est par la force de l'esprit qu'on peut le gagner. On ne peut pas espérer que la chair va vous aider à battre la chair, à remporter la victoire sur la chair. Ce n'est pas les bonnes résolutions, ce n'est pas votre force de caractère, c'est la présence de l'Esprit Saint en vous. Et pour vous remplir de cette présence, il faut cultiver la relation avec Dieu, la cultiver quotidiennement, vous saturer de la parole. Il y a un livre qui circule en ce moment sur le, je sais plus le titre exactement, mais c'est un café et la foi. Et un des prémices de l'auteur, c'est que si vous lisez moins de 3 chapitres le matin et moins de 3 chapitres le soir dans la Bible, vous n'êtes pas saturé par la volonté de Dieu. Et encore une fois, si on passe 5 minutes à lire la Bible et les 8 heures qui nous restent dans la journée, ou les 8 heures que nous consacrons à écouter de la musique, des nouvelles, l'internet, les médias, les films, la télévision, pas étonnant que Dieu va vous paraître 200 fois moins réel que le monde. Et donc, une autre clé, c'est de ne pas faciliter le travail de la chair. Romains 13, 14 dit « Ne vous mettez pas en souci pour la chair. » Ça veut dire « Ne faites pas attention aux exigences de la chair en accommodant la chair, en faisant d'autres traductions, dire des provisions pour la chair. » Je vais à l'église, d'accord, mais tel jour, je m'accorde de lire tel genre de livre qui n'est pas édifiant, qui est sexuellement orienté. Ne vous mettez pas en souci pour la chair. Si vous connaissez votre faiblesse, évitez de passer par telle rue où vous savez qu'il va y avoir des publicités suggestives. Je le dis parce que j'avais un très bon ami qui est maintenant pasteur, qui faisait ça. Il avait trouvé un circuit, il savait que s'il passait là, sans doute il y aurait une publicité pour les sous-vêtements féminins. Ah, juste un coup d'œil. Non, attention, attention, attention. La convoitise des yeux, c'est comme ça que commence la convoitise de la chair, commence le péché. Nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés d'images, bombardés de films, bombardés de choses. La pornographie est un sérieux problème dans notre société. Quand j'étais gosse, il fallait aller dans un magasin, aller au comptoir, demander un Playboy. C'était pas facile. En général, comment ça se passait? Il y en avait un qui était courageux dans la bande et qui allait le faire. Et puis après, à la récréation, il montrait les images. Oh, oh. Maintenant, n'importe qui, vos enfants, vous-même, moi-même, on tape sur Google et on a accès à tout et à rien. La pornographie, c'est vraiment un problème qui mine beaucoup les hommes. Je ne sais pas pour vous, mesdames, j'espère que non. Mais les hommes sont très sensibles aux images. Et là, récemment, je viens de commencer une petite étude avec des personnes, une personne en particulier, que je nommerai pas, bien sûr. Et on essaye de voir comment lutter contre la pornographie. Et si c'est un problème qui vous tracasse, venez m'en parler. Et on peut ensemble se soutenir l'un l'autre dans ce combat. Souvent, notre chair, elle va prendre avantage lorsqu'on est fatigué ou on a besoin d'un petit break. McDonald's nous dit, vous avez droit à un petit break maintenant. Allez, passez et prenez un truc plein de cholestérol qui va vous tuer à petit feu. Mais vous le méritez. Et on va revenir, mais Salomon, avec toute sa sagesse, il n'a pas réussi et il s'est détourné de Dieu. Pourquoi ? Parce que la sexualité, ça devient tellement important que ça prend la place d'une idole. Et les idoles de ces femmes, les dieux qui n'étaient pas des beaux dieux, il y en a même un qui s'appelait le dieu Kémosh, qui veut aller adorer le dieu Kémosh, Moloch, Moab, tous ces dieux qui étaient des abominations devant Dieu. Le dieu de Moab, Moloch, c'était celui, plutôt Moloch, celui des Ammonites, c'était le dieu pour lequel on érigeait des statues métalliques qu'on chauffait à blanc et dans lequel on mettait les bébés non désirés. On les laissait griller, on faisait un sacrifice, on ajoutait le meurtre à l'adultère. Et aujourd'hui, on a le droit à l'avortement. Les enfants non désirés, les enfants qu'on a par accident. Le gouvernement, les autorités sanitaires nous proposent de les tuer. On s'est tellement éloigné de Dieu, nos cœurs se sont tellement détournés de Dieu en tant que nation, et c'est pas seulement en France malheureusement, mais la France est notre premier souci, que au nom de l'adultère, de la liberté, on a aussi la liberté de supprimer les innocents qui résultent de relations sexuelles illicites. Ces démons qui étaient derrière ces idoles, Milcom, Malcom ou Kémosh, le Moloch, Astarté, la déesse du sexe, qui est devenue la Vénus, et maintenant ce sont nos stars du cinéma. Ces démons sont présents dans notre société. Ils sont très actifs et ils attirent beaucoup de monde loin de Dieu. Salomon connaissait, si on lui avait dit, les autres dieux sont aussi grands que Yahvé, Jéhovah, le Dieu d'Israël. Il aurait pu, par son intellect, il aurait pu convaincre les gens que ce n'était pas le cas. Mais il était incapable de voir que dans sa propre vie, il succombait à ses autres dieux, il s'éloignait du vrai Dieu. Et ça, c'est un danger qui nous guette tous, c'est de connaître les lois de Dieu, de connaître ce qui est bien de ce qui est mal, et de se dire que dans mon cas, il peut y avoir une exception. J'ai bien compris les choses, je sais, je m'éloignerai jamais de Dieu, juste un petit break. Mais ça, c'est le début de la fin, lorsqu'on croit que les 10 commandements, les lois, les préceptes de Dieu s'appliquent surtout aux autres. Mais dans mon cas, on peut faire une exception. Et c'est sans doute ce qu'il faisait. Il se savait tellement sage qu'il disait « Oh, c'est pas quelques statuettes qui vont changer le cours des choses. » Et pourtant, il désobéissait systématiquement à Dieu. Et on avait vu, on en avait parlé, mais dans le Deutéronome 17, on va regarder ensemble, encore une fois, parce que c'est tellement flagrant. Deutéronome 17, chapitre 17, verset 14. Dieu savait qu'ils allaient demander des rois, alors il disait « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu habiteras et que tu diras « Je veux établir sur moi un roi » comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. » La puissance, le sexe et le fric. Que le roi qui donne l'exemple à la nation, surtout ne fasse pas ces choses. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a fait ? La puissance, les chevaux, les tanks. Le compte en banque, le fric, le compte en banque, et puis les femmes, 1000 femmes. Dieu lui dit, je vais prendre le royaume de toi, il va te déchirer certainement. Mais je vais pas le faire pour toi, à cause de ton père David. Je le ferai avec ton fils. Est-ce qu'on va voir à partir du chapitre 12 ? Il laissera une tribu à son fils, c'était la tribu de Benjamin, lui le fils étant de Juda, donc il y aura les deux tribus du sud de Jérusalem et les 10 autres tribus qui prendront pour capitale Samarie et qu'on appellera par la suite, après la division du royaume, qu'on verra à partir de la semaine prochaine, le royaume du nord et le royaume du sud, Israël et Juda, pour résumer. Dieu a toujours gardé sa considération pour David. David, vous le savez, n'a pas vécu une vie parfaite. Mais il a lui aussi commis des péchés sexuels, il avait lui aussi plusieurs femmes, on sait qu'il a, on n'a pas le nombre et le nom exact de toutes ces femmes, mais on a, dans certains passages, dans 2 Samuel 5, je crois, des noms de ses enfants qu'il avait avec différentes femmes et différentes concubines. David n'était pas parfait, il est tombé dans le péché sexuel, lui aussi. Lui qui avait pu écrire aussi des psaumes merveilleux, il n'avait pas toujours vécu comme il le disait, comme il disait aux autres de vivre. Toujours ce décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et le Seigneur veut nous mettre en garde, il veut me mettre en garde entre ce que je dis et ce que je fais. Et David, il est resté dans la postérité. Pour Dieu, il est l'homme après son cœur, selon son cœur. Il est dit au verset 4, « Son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. » Bizarre. Plus loin, verset 6, « Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. » Alors, on ne comprend plus très bien, on voit les récits dans 2 Samuel, dans 1 et 2 Samuel, dans l'histoire de la Bible, que David a commis un grand péché avec Bathsheba ou Bethsabée, suivant les versions. Cette femme avec qui il a eu des rapports sexuels secrets, il a ajouté le meurtre de son mari à cela et la dissimulation, l'hypocrisie pendant plus d'un an. Mais pour Dieu, il avait le cœur tout entier pour l'Éternel. Pour Dieu, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et ça doit nous encourager. Parce que tous, autant que nous sommes, nous avons péché, d'une manière ou d'une autre, même sexuellement. Mais, David, quelle était la différence avec Salomon ? David s'est repenti. David a demandé pardon à Dieu. David a reconnu son péché. Pour David, le péché sexuel, c'était une chute, un instant ou quelquefois, mais c'était quelque chose qu'il regrettait profondément. Pour Salomon, on voit que malgré des débuts formidables, le péché, la désobéissance systématique à Dieu est devenu un style de vie. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint veut vous demander, est-ce que tu vis dans le péché ? Est-ce que tu en as fait un style de vie ? Tu dissimules des choses, tu viens peut-être à l'église, mais tu mens par tes propos, par ta façon de comporter. Dieu pardonne la chute, Dieu pardonne celui qui vient à lui, qui se repent. Mais celui qui l'ignore et qui continue dans le péché, rien ne dit qu'il va le pardonner. Certains se demandent même si on verra Salomon au paradis. Les optimistes pensent que le livre de l'Ecclésiaste, c'était un peu sa confession à la fin de sa vie, lorsqu'il disait « Vanité des vanités, tout est vanité ». On peut l'espérer pour lui. Mais c'est remarquable de voir que David, pour Dieu, il y a... Quel péché de David ? Je ne me rappelle pas. Bathsheba ? Ah, la maman de Salomon ? Quel péché ! Il met nos péchés aussi loin de lui que l'Est l'est de l'Ouest, pas du Nord au Sud. Parce que si on met quelque chose au pôle Nord, si on va vers le Sud, on va le retrouver. Mais si on part à l'Ouest, on ne retrouvera jamais l'Est. Et l'Élysée de Versailles, vice-versa. Dieu, lisons-le encore ensemble, parce que c'est tellement important. 1 Jean, juste avant 2 Jean, juste avant 3 Jean, qui se trouve juste avant le dernier livre de l'Apocalypse. Maintenant, on n'a plus d'excuses avec Internet, on peut aller tout de suite au verset. Si vous, je sais souvent des gens me disent, oh, je sais plus où est ce verset. Tapez-le dans Google. Tapez les mots-clés. Utilisez Google pour le bien, pour la Bible. Vous allez être surpris de voir comment facilement on retrouve les versets avec. Google peut vous aider. 1 Jean nous dit, 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Ça veut dire qu'il n'y a pas des moments où il ne le fait pas. Ça veut dire qu'il le fait tout le temps. Il est fidèle et il est juste. Il est juste parce que quelqu'un d'autre a pris le prix de mon péché, la mort à la croix de Jésus. Il est juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et juste au verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si vous avez péché sexuellement, si vous avez eu un avortement plus tôt, un ou des avortements, si vous avez eu des enfants en dehors des liens du mariage, confessez-le, Dieu vous pardonne complètement. Ne portez pas le poids d'une culpabilité que Satan voudrait vous voir porter. Et suivez les prescriptions de Dieu pour vous tenir à l'écart du péché. Priez Dieu qu'il ne vous soumette pas à la tentation, mais qu'il vous délivre du malin, comme Jésus nous a appris à le faire dans le sermon sur la montagne, dans la prière du, entre guillemets, notre Père. Le pardon est là, mais encore faut-il le vouloir, faut-il dire avec Dieu, c'est ce que veut dire confesser, homo logeo, dire la même chose que Dieu au sujet de mes actes. Ce ne sont pas seulement des penchants, des faiblesses, ce sont des péchés qui ont nécessité la mort du propre Fils de Dieu sur la croix pour être pardonné. Mais ce pardon est disponible. Dieu, verset 14, on va juste voir rapidement, ne vous affolez pas, on est qu'au verset 14, il y en a 43. Dieu va montrer son désaccord et sa colère avec Salomon en suscitant des adversaires. Dieu doit parfois attirer notre attention sur nos péchés en nous laissant vivre les conséquences de nos péchés et en laissant des choses difficiles nous arriver. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a une difficulté dans ma vie, un problème, c'est une punition de Dieu, mais ça peut être une occasion pour Dieu de vouloir nous ramener à notre... à lui qui doit être notre destination, notre source, notre tout. Et là, il va susciter trois adversaires dont il est question. Hadad, verset 14, l'Édomite, qui était descendance royale en Édom. Plus loin, il va y avoir Rezon, le fils d'Éliada, verset 23. Et puis il va y avoir Jéroboam, verset 26. Dieu qui avait donné la paix, qui avait donné shalom à Shlomo, Salomon, il avait donné la paix à ce roi qui était nommé la paix. Les nations étaient tranquilles autour d'eux. Ils payaient des impôts, des tributs pour maintenir un style de vie très cher et très, très glorieux, très majestueux. Mais il va susciter trois adversaires. D'abord, Hadad, qui venait de Édom. Édom, c'était le pays qui avait longtemps combattu, qui venait du frère de Jacob, Ésaü. Et il y a toujours une inimitié entre les deux peuples, d'Israël et de Édom. Et c'était un homme qui avait obtenu le soutien du pharaon en Égypte. C'était un nouveau pharaon, parce que vous vous souvenez, la première femme de Salomon, c'était la fille du roi du pharaon. Là, un nouveau pharaon était arrivé au pouvoir et cet homme qui venait d'Édom s'était allié avec lui et il l'avait soutenu. Premier adversaire. Un deuxième adversaire, Rezon, c'était un chef de bande, on dirait aujourd'hui un terroriste, qui massacrait les gens parce qu'il avait été épargné, il avait connu un massacre des troupes de David. Donc il en voulait à son descendant Salomon. Lui, c'était toute la vie de Salomon, mais c'est qu'à la fin qu'il avait pu être dangereux pour Salomon. Et lui, c'était sur la Syrie qu'il régnait. Puis Jéroboam, c'était à l'origine un serviteur de Salomon que Salomon avait remarqué parce que c'était un bon travailleur et qu'il savait, c'était un meneur d'hommes. Et il l'avait nommé responsable de tous les porteurs de fardeau de la maison de Joseph, verset 28. Pendant que Salomon construisait le temple et sa maison. C'est là qu'il y a une rencontre avec le prophète Aïa de Silo, qui était revêtu d'un manteau neuf. Il tombe sur Jéroboam. Et il prend le manteau neuf, il le déchire en 12 morceaux, verset 30. Et il dit à Jéroboam, verset 31, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi il parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, me voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, ta ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. » Et la raison, c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu, qu'ils se sont prosternés devant tous ces idoles, tous ces faux dieux, qu'ils n'ont plus observé les prescriptions et les ordonnances comme David, le père de Salomon. Ça, c'est le verset 33. « Je ne prendrai pas de sa main tout le royaume, verset 34, car je le maintiendrai prince tous les jours de sa vie à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes prescriptions. » Mais je prendrai le royaume de la main de son fils et j'en t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils afin que mon serviteur David ait toujours une lignée royale devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi sur Israël. Si tu écoutes tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. J'humirai par la descendance de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, alors Jéroboam se leva, prit la fuite en Égypte au prix de Shirak. C'est la fin de son de prononciation israélienne, non c'est Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela est écrit dans un livre que nous n'avons plus, qui est désigné sur le livre des actes de Salomon. Le temps du règne de Salomon à Jérusalem sur tout Israël a été de 40 ans. Salomon se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la ville de son père David. Son fils, Roboam, régna à sa place, prit sa place. Trois ennemis. Le chrétien a trois ennemis. Le monde, Satan et la chair. Le premier, Hadad, c'est le monde, c'est un type du monde. Le monde qui nous entoure, qui nous tente, le monde qui est rattaché à l'Égypte. L'Égypte est un type du monde. On compare souvent la progression du chrétien qui quitte le péché, qui va en terre promise, comme c'est dans Romains qu'il en est question, on l'a vu au premier trimestre, l'Égypte c'est un type du péché et la terre promise c'est un type de la vie dans l'esprit. Le deuxième adversaire, c'est intéressant parce que dans le texte, le mot adversaire c'est Satan. Satan, c'est un titre du vieux serpent, de cet ange de lumière déchu qui va entraîner tous les autres à sa suite, en enfer. Satan, ça veut simplement dire adversaire. Et raison, c'est un type de Satan. Satan qui veut être adoré comme Dieu, qui voudrait être adoré à la place de Dieu. Jéroboam, c'est l'ennemi intérieur, c'est la chair, c'est un type de la chair. Il est vain de vouloir combattre la chair par la chair. Lorsque Jéroboam va essayer de se protéger, ce qui compte, c'est pas la chair qui va faire, c'est quelqu'un d'autre. On ne peut pas mettre la chair à mort par la chair. Salomon, qui s'était fâché contre lui, n'a pas pu le mettre à mort. Et c'est aussi vain que nos efforts dans nos bonnes résolutions de combattre la chair par la chair. Le monde, Satan, la chair. C'est la trilogie. C'est contre ces trois éléments, trois personnes ou trois choses qu'il faut prier chaque jour. Et il y a une liaison entre les trois. Satan, c'est le prince de ce monde. Satan contrôle le monde et le monde, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous tente. Il tente notre chair. Donc on est mal barré. Satan, c'est un ange puissant. On est mal barré si on est tout seul face à ça. Mais si on fait appel à Jésus, si on laisse l'Esprit Saint nous transformer, venir nous soutenir, nous aider dans le combat spirituel, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous est-il dit dans Éphésiens 6, 10, mais contre les dominations dans les lieux célestes, contre les princes des ténèbres, contre les adversaires spirituels, les puissances démoniaques. Et on nous a donné des armes. Et Salomon, c'est terrible parce que voilà quelqu'un qui avait si bien commencé. Si bien commencé, qui construisait des temples à la gloire de Dieu. À la fin, tout ce qu'il a, c'est de la jalousie et il essaye de s'en prendre à une personne. Il est tombé bien bas. Pourquoi ? Parce qu'il s'est laissé détourner de Dieu par les idoles. En obéissant, en désobéissant systématiquement à ce que Dieu disait. Pas de fric, pas de puissance, pas d'argent. Ne cherche pas à multiplier ces choses. Et ce qui compte, c'est bien de bien commencer. Mais ce qui compte, c'est de persévérer, de terminer. Pour beaucoup, là, vous dites la fin est encore loin, j'ai le temps de faire des petits détours. Vous ne savez pas quand est la fin. Dieu veut que vous gardiez le cap. Dieu veut que vous ayez une longue obéissance dans un même sens toute votre vie. Et nous avons tendance à nous laisser impressionner par les feux de paille. Il y a telle personne qui est « waouh, so spirituel, t'es tellement spirituel, qui prie pour le réveil, qui fait du bruit, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est que ça dure. Et nous devons prier pour durer. Nul n'est à l'abri de ses tentations. Nul n'est à l'abri de ce qui a causé la chute du roi Salomon. Et rappelons-nous que quand nous tombons, quand nous chutons, Dieu est là, prêt à nous pardonner. Et après, il dit, quelle chute ! Je sais même pas de quoi tu parles, allez, arrête. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous utiliser. Salomon a été grandement utilisé au début de son règne, mais la fin est bien triste. Le royaume va être divisé. Et Salomon, maintenant, on se rappelle, oui, c'était un roi riche qui a écrit des proverbes et qui a fait l'imbécile. Est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous comme d'un imbécile ? Vous savez que Nancy a perdu son papa et on a l'occasion de chercher des témoignages, des photos. Et plus je connais cet homme et plus je réfléchis sur sa vie et plus je suis reconnaissant au Seigneur de sa place dans ma vie. C'est un homme qui n'a pas cherché la gloire, qui n'a pas cherché la richesse. Il aimait son Dieu, il s'est détourné pendant un temps, mais je crois qu'à la fin il est vraiment revenu à Dieu. Et il a une vie qui peut rester comme un témoignage pour les générations à venir. Prions. Seigneur, merci de nous aider à bien commencer dans la vie chrétienne. Merci pour toutes ces jeunes personnes qui te découvrent et qui sont pleins de zèle et de volonté de te servir, de plans que tu inspires ou que peut-être tu suggères. Et Seigneur, on veut tous bien commencer. Mais on voit combien il est important de garder le cap. Combien il est important de ne pas se reposer sur nos lauriers, entre guillemets. Seigneur, nous sommes tous à des étapes différentes dans notre démarche avec toi, Seigneur, mais garde-nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir une sainte horreur du péché, une méfiance vis-à-vis de notre chair, que celui qui se croit fort ne le fasse plus parce qu'il est près de la chute. L'orgueil précède la chute, Seigneur. Garde-nous humbles, Seigneur. Donne-nous d'être repentants. Garde-nous aussi, Seigneur, de ne pas donner de place à la chair, de ne pas laisser des petites accommodations pour qu'elle ait l'occasion d'avoir ce qu'elle désire. Aide-nous à utiliser les armes spirituelles, du combat spirituel, Seigneur. Seigneur, que tu gardes nos têtes dans le casque du salut, Seigneur, que tu saignes sur notre poitrine la cuirasse de la justice, que nous ayons la vérité pour ceinture, Seigneur, que nous ayons des chaussures pour pouvoir aller annoncer l'Évangile, Seigneur. On prie pour l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi qui nous protège des traits enflammés du malin, Seigneur. Seigneur, tu as tout fait, aide-nous à avoir une vraie sagesse, Seigneur. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Aide-nous à te craindre, ô Éternel. Seigneur, merci pour ta parole qui nous met en garde. Merci pour ta parole qui nous avertit, qui nous donne des armes, qui est l'arme la plus forte, Seigneur. Seigneur, je te remets tous ceux qui sont peut-être en train de jouer avec le feu dans certains domaines, Seigneur. Que ce soit la pornographie, les relations illicites. Que tu encourages ceux qui aspirent à trouver l'homme ou la femme de leur vie. Que tu nous fortifies tous contre le péché, Seigneur. Que chacun sache que tu es toujours prêt à pardonner si nous venons à toi humblement en demandant pardon. Seigneur, sois glorifié dans nos vies, dans notre église, dans cette ville, Seigneur, dans les églises de cette ville. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, qui déverse en nous ton amour, les uns pour les autres et pour ceux du dehors. Te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.